VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Présidentielle américaine 2016, tout d'abord. Parallèlement à l'affaire des emails de la candidate démocrate Hillary Clinton, c'est maintenant la question des dons à la fondation de son époux, l'ex-président Bill Clinton, qui fait des vagues. La polémique résulte de la récente analyse de l'agence Associated Press sur ce sujet. Timothée Donangmaï.
Selon l'agence, plus de la moitié des personnes qui l'ont rencontrée alors qu'elle était secrétaire d'État ont fait des contributions financières personnelles à la Fondation Clinton ou l'ont fait à travers des compagnies ou des associations. Pourtant, la candidate démocrate se concentre sur sa campagne, n'ayant aucun projet immédiat d'interview ou de conférence de presse pour s'expliquer sur ses dossiers. Elle n'a aucun conflit d'intérêt avec les œuvres charitables de la Fondation Clinton, assure Robbie Mook, porte-parole de l'équipe Clinton, ajoutant que l'analyse d'Associated Press est biaisée dans la mesure où, dit-il, celle-ci ne prend pas en compte les rencontres au département d'État entre Mme Clinton et des responsables gouvernementaux ou étrangers. Pour l'heure, Mme Clinton devance Donald Trump dans les sondages d'opinion au plan national, si bien que ses conseillers jugent peu utile pour elle de se livrer à un exercice d'explication à ce stade. Son discours prévu ce jeudi à Reno dans le Nevada aura donc pour cible Donald Trump. Trump lui-même appelle à la fermeture immédiate de la Fondation Clinton et à la désignation d'un procureur spécial pour ouvrir une enquête à ce sujet.
Présidentielle au Gabon, quelques 600 000 électeurs sont appelés aux urnes le samedi 27 août. Dans plus de 2 500 bureaux de vote, ils auront à choisir parmi 11 candidats, dont les plus en vue sont le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. La campagne qui se termine demain vendredi a surtout été marquée par les invectives, accusations et contre-accusations, et chaque camp est convaincu de remporter la victoire. Le scrutin sera surveillé de près par des milliers d'observateurs nationaux et internationaux. Est-ce que tout est prêt pour la tenue de ce scrutin sous haute tension? Idriss Fall, notre envoyé spécial à Libreville, s'est entretenu avec le professeur Guy-Serge Binyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon.
Oui, en ce qui concerne la commission, tout est prêt, puisque nous nous chargeons du volet accompagnement des observateurs nationaux et internationaux à cette élection. Notre travail est de faciliter toutes les conditions matérielles qui vont permettre le déploiement des observateurs sur le terrain. Il s'agit essentiellement des documents d'identification pour permettre aux observateurs d'accéder au bureau de vote, leurs droits dans l'accomplissement de leur mission. Nous allons accréditer plus de 1 000 observateurs sur l'ensemble du territoire national pour cette élection. Il y a à la fois des observateurs nationaux et quand je parle d'observateurs internationaux, il s'agit aussi bien des grandes institutions internationales telles que l'Union européenne, l'Union africaine, l'Organisation internationale de la francophonie, etc., ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales, des groupes de la société civile, du Cameroun, du Togo, du Bénin, etc.
L'Union européenne, ce serait là une première, non?
Oui, c'est la première fois que l'Union européenne va mener cette mission d'observation au Gabon sur invitation du gouvernement gabonais.
Les observateurs, leur rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est après les élections de toujours dire que ça s'est bien passé? C'est quoi leur rôle en réalité?
Le rôle des observateurs est de pouvoir suivre le processus électoral, suivre les conditions dans lesquelles ce processus déroule de façon à identifier, si c'est le cas, tous les aspects négatifs qui peuvent être améliorés pour justement permettre à l'avenir des élections beaucoup mieux organisées et in fine faire en sorte que les élections soient des élections les plus transparentes possibles, les plus justes possibles, les plus sincères possibles. Donc c'est une mission donc d'accompagnement pour faire en sorte que les élections soient le moins contestées possible, si d'aventure, justement, toutes les conditions d'une élection sincère, crédible et juste sont réunies.
Est-ce que vous pensez que ce sera le cas pour le scrutin du 27 août?
Il existe au Gabon un code électoral. L'organisation des élections est encadrée par un ensemble de textes et tous ceux qui sont peu ou prou impliqués dans l'organisation des élections sont astreints au respect des dispositions prévues en la matière et de ce point de vue, on ne peut pas douter que les élections se dérouleront conformément à ce qui est prévu par la loi et donc elles se dérouleront normalement.
Le professeur Guy-Serge Binyumba, président de la commission spéciale chargée de l'accueil des observateurs au Gabon.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La sixième conférence nippo-africaine TICAD s'ouvre samedi à Nairobi au Kenya avec la volonté pour Tokyo de marquer des points en Afrique où Pékin s'est taillé une place de choix. C'est la première fois depuis son édition initiale en 1993 que la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, se tiendra sur le continent africain et non au Japon. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et plusieurs membres de son gouvernement participeront les 27 et 28 août à cette conférence qui définit le programme d'assistance du Japon à l'Afrique. Une trentaine de chefs d'État africains seront de la partie, dont le président kényan Uhuru Kenyatta et son homologue sud-africain Jacob Zuma, avec qui M. Abe tiendra aussi une réunion bilatérale. En RCA, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. La maladie, dont les premiers cas ont été signalés début août, a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Pour stopper la progression du choléra, des ONG nationales et internationales se mobilisent et plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés le long du fleuve Oubangui. Les explications du docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en Centrafrique.
En tant qu'agence technique en appui direct au ministère de la Santé, nous travaillons en étroite collaboration pour nous assurer que les cas sont détectés rapidement et qu'une réponse est apportée avec les équipes de réponse rapide que nous avons mis en place pour faire la détection, la prise en charge des cas, désinfecter les localités.
Le docteur Michel Yao, représentant de l'OMS en Afrique. Le choléra sévit également en RDC, voisine. Et les Nations Unies ont exprimé mercredi à Kinshasa leurs préoccupations face à l'extension dans le pays de l'épidémie qui a déjà touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Les précisions de Nani Talani.
La situation est très préoccupante. Le choléra est en train de se propager en RDC, où on a déjà franchi la barre de 15 000 cas et 382 décès depuis le 1er janvier, a déclaré Eugène Kabombi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. D'après Florence Marshall, une porte-parole onusienne, cette épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord Oubangui, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine et le long de la rivière Oubangui. Pour Yves Wilmot, un porte-parole de l'UNICEF, il faut un travail de conscientisation des populations de la partie ouest du pays qui ne sont pas habituées à la problématique du choléra. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celle de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie.
Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie, la Turquie renforce aujourd'hui ses troupes en territoire syrien. Des centaines de rebelles syriens soutenus par les chars et l'aviation turque occupent depuis hier la localité frontalière de Jarablus, après en avoir chassé les djihadistes du groupe État islamique à l'issue d'une offensive éclair, Jean-Roger Bion.
Selon l'agence pro-gouvernementale Anadolu, seul un rebelle syrien a été tué et 10 autres blessés. L'agence Dogan a fait état de la mort de 46 djihadistes, ce qui n'a pas été confirmé. La rapidité de la reconquête de Jarablus a stupéfié les experts alors que la prise par les Kurdes de localités tenues par le groupe État islamique dans le nord de la Syrie, comme Kobané ou Minbej, avait nécessité de longs combats. L'armée turque, soutenue par les forces de la coalition internationale anti-djihadiste, avait lancé ce qui a été sa plus importante opération militaire en Syrie depuis le début du conflit il y a plus de 5 ans. Les États-Unis apportent leur soutien, y compris dans les airs, à l'opération turque de l'autre côté de la frontière syrienne pour y repousser l'organisation terroriste, ont indiqué des responsables américains sous couvert d'anonymat.
La guerre au Yémen maintenant, l'ONU a réclamé aujourd'hui la création d'un organisme international indépendant pour enquêter sur les violations des droits de l'homme dans le pays en proie à un conflit qui a fait plus de 6600 morts depuis 17 mois. Les civils au Yémen souffrent de manière insoutenable en dehors de toute forme de justice, tandis que l'impunité prévaut pour les personnes responsables de violations, a déclaré le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, en réclamant une enquête internationale indépendante. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.